France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Les trois coups n'avaient pas cessé dans les théâtres en France durant la guerre. Mais c'est à l'époque 1944-1951 que s'est intéressé Jacques Charby pour une série de l'été 1995 sur France Culture. Série permettant de découvrir des trésors sonores, témoignages de représentations, entretiens avec des acteurs, des décorateurs, des musiciens de scène, etc. Série que nous réentendons cette semaine dans les nuits de France Culture et dont voici tout de suite le quatrième volet.
D'un théâtre l'autre, une rétrospective théâtrale de Jacques Charby.
Dieu se sert de moi.
Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu auras du courage tous les jours, Charles.
Tu es sûr que c'est ce soir ?
Quoi ?
Qu'il fallait attendre ?
Je dis que c'est une aventure dans le domaine de l'esprit.
Aujourd'hui, nous consacrons cette émission pour moitié aux créations parisiennes et pour l'autre à la décentralisation, qui marqua progressivement un renouveau théâtral dans toute la France. Commençons par Paris, où de belles pièces se succèdent, marquant l'avènement de nouveaux auteurs, de nouveaux acteurs, de nouveaux metteurs en scène, ce qui ne veut pas dire que les talents confirmés se soient éteints. Au Théâtre de l'Athénée, on joue « Sud » de Julien Green, avec Pierre Vanneck et François Guérin, mise en scène de Jean Mercure. C'est un succès, un grand succès. Impossible, bien sûr, de citer toutes les créations, alors en voici quelques-unes, en vrac, si j'ose dire. « Maître après Dieu » de Jean de Hartog, « Les œufs de l'autruche » d'André Roussin, avec un sujet extrêmement délicat, des parents se rendent compte que leur fils est homosexuel. C'était joué magnifiquement par Pierre Fanet au Théâtre de la Michaudière. « La soif » de Bernstein, avec la seule apparition de Jean Gabin au théâtre. « Haute surveillance » de Jean Genet, encore une pièce à scandale, une merveilleuse pièce. « L'inconnu d'Arras » de Salacrou, « Malatesta » d'Henri de Monterland, par la compagnie Barreau-Renault au théâtre Marigny. « Nucléa » de Pichette, qui reçut un accueil, disons, partagé pour ne pas dire réticent. Une pièce très poétique. « La cuisine des anges » d'Albert Husson, là c'est un grand succès comique. « Capitaine Bada » de Vautier. Victor Hugo à la Comédie Française avec Hernani, sans bataille. Si Camille me voyait, d'un auteur séduisant à la voix particulière, Roland Dubillard. Une pièce d'Adamoff, Tous contre tous. Pour Pierre Brasseur, Sartre a adapté Kin d'Alexandre Dumas. Les Naturels du Bordelais, d'Audi Berti. Le désir sous les ormes, d'O'Neill. Pour Lucrèce, de Giraudoux. Au théâtre Sarah Bernard, Les Sorcières de Salem avec Simone Signoret et Yves Montand, mise en scène de Raymond Rouleau. Il faut arrêter cette liste, bien sûr non exhaustive, pour privilégier les œuvres dont nous possédons des extraits. Au théâtre Marigny, la dernière pièce de Jean Anouilh, La répétition ou L'amour puni. Montée et jouée par Jean-Louis Barrault et sa troupe. Voici un soliloque de Jean-Louis Barrault dans La répétition ou L'amour puni.
Je sais que j'ai tort de vous parler ainsi, mais je suis au milieu de ma vie et je n'ai pas encore eu la force de me refuser un plaisir. Oh, pardon. J'ai dit le mot qu'il ne fallait pas dire. Bon, un peu de patience, j'apprendrai le vocabulaire aussi. Je ne sais d'ailleurs pas quelle conjuration de cagots et de vieilles filles a pu réussir en deux siècles à discréditer le mot plaisir. C'est un des mots les plus doux et les plus nobles de la langue. Je ne suis pas croyant, mais si je l'étais, je crois que je communierais avec plaisir. Le mal et le bien aux origines, cela a dû être ce qui faisait plaisir ou non, tout bonnement. Toute la morale de ces cafards repose précisément sur ce petit mot fragile et léger qu'ils abordent. Pourquoi l'amour ne serait-il pas d'abord ce qui fait plaisir au cœur? En tout cas, c'est passionnant d'être amoureux d'une jeune fille muette. Cela vous entraîne au soliloque et à la méditation. On ne se parle jamais assez. On est pourtant son interlocuteur le plus attentif, le plus prompt à la répartie. Voilà des années que je ne m'étais pas adressé la parole. Je me méconnaissais. Je suis d'un commerce très agréable. Je me découvre très tendre et très profond.
Claude Roy. Quand j'étais petit, je croyais qu'on va au spectacle pour passer le temps. Je sais maintenant qu'on y va pour l'empêcher de passer.
Le 13 décembre 1950, la Comédie-Française affiche les caves du Vatican d'André Gide, celui qu'on appelait à l'époque, enfin certaines personnes l'appelaient comme ça, surtout des journalistes, l'immoraliste Gide. De nombreux grands sociétaires font partie de la distribution. Ici, Roland Alexandre et Yvonne Godeau. L'extrait est très bref car il n'est pas de très bonne qualité sonore.
Vous ne vous souvenez pas que vous étiez si belle? Vous souvenez-vous de ce que je vous disais sur les marches de votre escalier?
J'entends encore la moindre de vos paroles, Lafcadio.
Que je vous aime, il n'est que trop certain. Certain aussi que j'en fais mon affaire. Mais vous m'aimez. C'est cela qui me gêne. Je me sens tout encombré par votre amour.
Adieu, Lafcadio. Pour effacer vos traces dans mon cœur, je n'aurai sans doute pas trop de toute ma vie.
Au théâtre de l'Atelier, André Barsac a mis en scène Les Oiseaux de Lune de Marcel Aimé, une pièce singulière dont l'action se situe l'été dans une boîte à bachot remplie de cancre, entre guillemets, et dont le surveillant général, Valentin, joué par Jacques Duby, a le pouvoir de transformer à sa guise les humains en oiseaux, surtout ceux qui le gênent. Les Oiseaux de Lune, interprétation Jacques Duby, Jacques Charby, Pascal Deboisson.
Martineau, pourquoi vous refusez-vous à admettre ce que tous vos camarades ont fini par comprendre?
Que le bonheur, c'est d'avoir des ailes? Non, merci. Je tiens à ma vie, à moi.
Mais ce que je vous propose, Martineau, ce n'est pas la mort.
Ce que vous me proposez, dites donc!
Je me suis mal exprimé. Ce que je tiens à votre disposition...
Ce que vous tenez à ma disposition, vous pouvez le garder. Je ne ferai pas la bêtise de vous suivre dans votre bureau, moi. Et si je vous vois rôder autour de moi avec un drôle d'air, je commence par vous balancer un coup de pied dans le ventre. Vous voilà prévenu.
Pour vous changer en oiseau, je n'ai besoin ni de rôder autour de vous, ni de vous faire entrer dans mon bureau. Je n'en suis plus là. Hier soir, sans bouger de mon fauteuil, j'ai métamorphosé 6 gendarmes, alors qu'ils étaient occupés à fouiller la cave. Ceci, Martinon, pour vous dire que vous êtes à ma merci. En êtes-vous bien persuadé?
Non. Je suis même sûr que si j'étais à votre merci, vous m'auriez déjà donné des ailes.
Martinon, savez-vous à qui vous devez de n'être pas déjà un oiseau? À Sylvie, qui a la bonté de vous prendre sous sa protection. Votre amour de bon chien fidèle a réussi à la toucher. Oh, n'allez pas croire qu'elle soit éprise de vous. Mais c'est une jeune fille d'un grand cœur à qui vos déceptions sentimentales inspirent de la compassion.
Elle vous l'a dit?
Oui. Bien souvent.
Sylvie décidera si je dois partir ou rester.
Valentin, je crois que le sous-préfet a la pépille. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Prends une paire de ciseaux et coupe-lui le bout de la langue.
Ne quittons pas Marcel Aimé, dont la dernière pièce, juste après Les Oiseaux de Lune, La tête des autres, est jouée aussi au théâtre de l'Atelier et aussi mise en scène par son directeur André Barsac. Parmi les créateurs, il y avait Mouloudji et Jean Martinelli. La pièce était grinçante et fit grincer, son sujet étant la peine de mort. À notre connaissance, il n'y eut pas d'enregistrement fait au théâtre. Celui que nous vous proposons maintenant l'a été en studio, avec Fernand Fabre, Louis Arbessier et Monique Mélinan.
Oh, Juliette, ma chérie, alors?
Rien, il ne m'a même pas encore téléphoné.
Bon, notez que ça n'a rien de surprenant. Il arrive que ces débats se poursuivent jusqu'au milieu de la nuit, rappelez-vous l'affaire Lemoine.
Oh, je m'en souviens. Un échec risquerait de retentir sur sa carrière.
Oh, vous savez, sa carrière... Oh,
en tout cas, sur son humeur. Pour être heureux, il a besoin de réussir. Oh, il y a tant d'aléas, tant d'éléments imprévisibles qui peuvent jouer contre lui. L'atmosphère de la salle, la composition du jury, l'humeur du président, l'hésitation d'un témoin, que sais-je. C'est lui. J'entends son pas. Oh, mon Dieu, pourvu qu'il m'apporte une bonne nouvelle. Ah, oh, jamais je n'ai été aussi anxieuse.
Alors.
Oh. Ça y est, cet animal de Mannerin s'en est tiré.
Oh, j'en avais le pressentiment.
Oh, mon pauvre vieux. Alors, non, ça n'a pas marché.
Mais si, ça a très bien marché, puisque j'ai fait condamner mon bonhomme. C'est vrai, les travaux forcés, à perpétuité.
Pas du tout, il est bel et bien condamné à mort.
Bravo, c'était pas tant.
Mon chéri, comme je suis heureux. Oh non, tu ne peux pas savoir quel bonheur c'est pour moi. Ah, j'ai passé de telles angoisses. Non, mais je n'osais plus espérer la bonne nouvelle. Tu ne rentrais pas, tu ne téléphonais pas.
Mon cher petit.
Le verdict a été rendu tard et j'ai dû ensuite écouter le chef de cabinet de Robichon qui m'a tenu encore 20 minutes.
Et en entrant, vous nous avez fait marcher en prenant une mine d'enterrement comme si le type avait été acquitté. Oh, c'est vilain ce que vous avez fait là, procureur Maillard.
Oui, oui, c'est très vilain et nous sommes très fâchés.
Je demande pardon à tous et je promets de ne plus le faire jamais.
Vous avez dû vous démener comme un diable.
Oh, c'est bien simple, je suis claqué. 20 fois j'ai cru que l'accusé sauvait sa tête. Je le sentais m'échapper, me filer entre les doigts. Et chaque fois, j'ai réussi à donner le coup de barre qu'il faisait rentrer dans l'ornière.
L'ornière de la justice.
Mais le pire était que cet animal-là inspirait la sympathie. Pour un procureur, il n'y a rien de plus pénible ni de plus dangereux.
Il était beau.
Et pas mal. Avec ça, un certain chic dans la façon de s'habiller, une élégance un peu négligée.
Il y avait des femmes dans le jury.
Deux.
Oh, tu avais vraiment tout contre toi.
Ah, tu peux le dire. Quand le prévenu protestait de son innocence, je sentais fléchir la salle, le jury et jusqu'au président. Alors, je donnais un coup de gueule et je le ramenais au pied du mur. Où étiez-vous le soir du 1er juin entre 8h et minuit?
Au fait, où était-il entre 8h et minuit?
Bah, chez sa victime, parbleu. Il prétendait, lui, avoir passé la soirée dans un hôtel avec une inconnue. En fait, d'alibi, c'était puéril. Mais il avait une façon d'affirmer qui troublait les jurés. Finalement, et grâce à moi, la sympathie qu'il inspirait s'est retournée contre lui.
Et comment vous y êtes-vous pris, mon cher magicien?
Messieurs les jurés, vous avez en face de vous un assassin dont l'arme la plus dangereuse n'est ni le couteau, ni le revolver, mais cette sympathie. Oh non, si nous parlions d'autre chose, je vais tout de même pas refaire le procès à moi tout seul.
Dommage.
Oui, oui, mes enfants, oui, papa est rentré. Ah, ça je sais pas, c'est lui qui vous le dira.
Ce sont les enfants, ils n'arrivent pas à s'endormir, va les embrasser. Tu leur apprendras la bonne nouvelle, ils vont être si contents.
Oh, cher mignon, à midi, Alain m'a fait promettre de lui apporter la tête de l'accusé.
Toute la soirée, ils ont joué à se condamner à mort.
On ne dira jamais assez l'importance des petits théâtres à Paris. Un livre leur a été consacré dernièrement. Il s'appelle « Petite scène, grand théâtre ». C'est un bon titre. Ce livre a été conçu et réalisé par Geneviève Latour et je me permets d'en conseiller la lecture. Un des petits théâtres, le Babylone, présentait le 3 janvier 1953 dans une mise en scène de Roger Blin « En attendant Godot » de Samuel Beckett. Mais ça n'avait pas été sans mal. Personne ne voulait de la pièce. Et l'on se demande quand elle aurait vu le jour, sans l'incroyable combat que mena Roger Blin, au bout duquel Jean-Marie Serrault, qui dirigeait le théâtre Babylone en faillite, accepta d'accueillir la pièce, au risque d'augmenter précisément cette faillite. Il a dit à Blin, « Je vais fermer boutique, alors autant finir en beauté. » Et puis la salle fut pleine tous les soirs pendant 2 saisons, et régulièrement reprise dans le monde entier. En France aussi, elle a été jouée dernièrement. À l'époque, elle était interprétée par Lucien Rimbourg, Pierre Latour, Roger Blin, Jean Martin et Serge Lecointe, en attendant Godot.
Tu es sûr que c'est ce soir ?
Quoi ?
Qu'il fallait attendre.
Il a dit samedi ? Il me semble. Après le turbin. J'ai dû le noter. Mais quel samedi ? Et sommes-nous samedi ? Ne serait-on pas plutôt dimanche ? Ou lundi ? Ou vendredi ?
C'est pas possible.
Ou jeudi ?
Alors comment faire ?
S'il s'est dérangé hier soir pour rien, tu penses bien qu'il ne viendra pas aujourd'hui.
Mais tu dis que nous sommes déjà venus hier.
Je peux me tromper. Oh, taisons-nous un peu, tu veux.
Tu veux bien ? Godot !
Pourquoi tu ne me laisses jamais dormir ?
Je me sentais seul.
J'ai fait un rêve.
Je ne le raconte pas.
Je rêvais.
Je ne le raconte pas. Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
On attend.
Oui, mais en attendant.
Si on se pendait !
Attendons voir ce qu'il va nous dire.
Qui ?
Godot.
Voilà.
Attendons d'être fixés d'abord.
Qu'est-ce que nous lui avons demandé au juge ?
Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Oh, ça ne nous engage à rien. Mais tu n'étais pas là ?
Je n'ai pas fait attention.
Eh ben, mais... Rien de bien précis.
Une sorte de prière.
Voilà.
Une vague supplique.
Si tu veux.
Et qu'a-t-il répondu ?
Qu'il verra.
Qu'il ne pouvait rien promettre.
Il fallait réfléchir.
À tête reposée.
Consulter sa famille.
Ses amis.
Ses agents.
Ses correspondants.
Ses revues.
Son compte en banque.
Avant de se prononcer.
C'est normal.
N'est-ce pas ?
Il me semble.
Moi aussi.
Lucien Guitry. Quand on frappe les trois coups, il n'y a plus que des débutants.
Régulièrement, Jeanne d'Arc inspire des auteurs. En 1953, c'était le tour de Jean Anouilh. Nous avons une scène interprétée par les créateurs de l'Alouette. C'est la scène où Jeanne parvient à convaincre le roi d'agir, un roi fantoche et malin, un des meilleurs personnages d'Anouilh et une des meilleures scènes de la pièce. Suzanne Flon et Michel Bouquet.
Ils sont sortis ! Tu es une fille épatante. C'est bien la première fois que je me fais obéir. Ce n'est pas vrai tout de même ce qu'il a tenté d'insinuer. Tu n'es pas venu pour me tuer. Tu n'as pas un couteau sous ta jupe. Bon, tu vas commencer à m'ennuyer. Tu vas commencer à me dire qu'il faut que je sois un grand roi, toi aussi.
Oui, Charles.
Écoute, il va falloir que nous restions enfermés ensemble au moins une heure pour les impressionner. Si tu me parles de Dieu ou du royaume de France pendant une heure, je ne tiendrai jamais. Je vais te faire une proposition. On va parler de toute autre chose pendant ce temps-là. Tu sais jouer aux cartes ?
Je ne sais pas ce que c'est.
C'est un jeu très amusant qu'on a inventé pour papa pour le distraire pendant sa maladie. Moi, c'est arrivé à m'ennuyer comme le reste. Depuis le temps que j'y joue, mais toi qui n'as pas l'habitude, ça va certainement t'amuser beaucoup. J'espère qu'ils ne l'ont pas volé. On me vole tout ici. Et tu sais, ça vaut très cher un jeu de cartes. Il n'y a que les très grands princes qui en ont. Moi, c'est un reste de papa. Je n'aurai jamais assez d'argent pour m'en acheter un autre si ces cochons-là me l'ont volé. Ah non ! Non, non, le voilà. Tu sais qu'il était fou, papa. Il y a des jours où je voudrais bien être son fils, pour être sûr que je suis le vrai roi. Il y a des jours où je me dis qu'il vaudrait mieux que je ne sois qu'un bâtard, pour ne pas craindre de devenir fou comme lui vers la trentaine.
Et entre les deux, Charles, qu'est-ce que tu préférerais ?
Tiens, tu me tutoies. On en voit de si drôle aujourd'hui. J'ai l'impression que je ne vais pas m'ennuyer aujourd'hui, c'est merveilleux.
Tu ne t'ennuieras plus jamais maintenant, Charles.
Tu crois ? Ce que je préfère, dis-tu. Eh bien, les jours où j'ai un peu de courage,
j'ai mieux risqué de devenir fou et être le vrai roi. Et les jours où je n'ai pas de courage, j'aime mieux envoyer tout promener et me retirer avec mes 4 sous quelque part à l'étranger et vivre tranquille. Tu connais Agnès ?
Non.
C'est une jolie fille. Je ne m'ennuie pas trop avec elle non plus. Mais elle veut toujours que je lui achète des choses.
Et aujourd'hui, Charles, tu as du courage ?
Aujourd'hui ? Oui. Il me semble que j'ai un petit peu de courage aujourd'hui. Pas beaucoup, mais un petit peu. D'ailleurs, vous avez vu comment je lui ai envoyé promener l'archevêque.
Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu auras du courage tous les jours, Charles.
T'as un truc ?
Oui.
T'es un peu sorcière. Tu peux me le dire ? À moi, ça m'est égal et je te jure que je ne le répéterai pas. Les supplices, j'ai ça en horreur. Une fois, ils m'ont emmené voir brûler une hérétique. J'ai vomi toute la nuit.
Non, Charles, je ne suis pas sorcière. Mais j'ai tout de même un truc.
Tu ne me le vendrais pas sans le dire aux autres. Je ne suis pas très riche, mais je te ferai un bon sur le trésor.
Je te le donnerai, Charles.
Pour rien ?
Oui.
Alors je me méfie, ou bien c'est pas un bon truc, ou bien ça me coûtera trop cher après. Les gens désintéressés, c'est toujours hors de prix. Tu sais, j'ai pris l'habitude de faire l'imbécile pour qu'on me fiche la paix, mais j'en sais long. On ne me roule pas facilement.
Tu en sais trop long, Charles.
Trop long ? On n'en sait jamais trop long.
Si, quelquefois.
Il faut bien se défendre. Je voudrais t'y voir. Si tu étais toute seule au milieu de ces brutes qui ne pensent qu'à vous donner un bon coup de dague au moment où vous vous y attendez le moins, et plutôt gringalet de nature comme moi, tu n'aurais pas été longue à comprendre que le seul vrai moyen de s'en tirer, c'est d'être beaucoup plus intelligent qu'eux. Je suis beaucoup plus intelligent qu'eux. C'est pourquoi je tiens tant bien que mal sur mon petit trône de Bourges.
Je serai là maintenant pour te défendre.
Tu crois ?
Oui. Et moi, je suis forte. Je n'ai peur de rien.
T'en as de la chance. Tiens, mets-toi sur le coussin. Je vais t'apprendre à jouer aux cartes.
Si tu veux. Après, moi, je t'apprendrai autre chose.
Quoi ?
À n'avoir peur de rien. Et à ne pas être trop intelligent.
Entendu.
Retour à l'un de ces valeureux petits théâtres, les Noctambules. Nous sommes le 15 décembre 1953. La flamboyante compagnie Jacques Fabry y joue les Hussards de Bréal. En 1796, la Lombardie est envahie par les armées de Bonaparte. Mais le parti pris de Bréal et Fabry est d'en rire et de faire rire.
Quand j'ai dit qu'ils étaient 30 à nous attaquer, je ne les ai pas comptés. Ils étaient peut-être 20, ils ont... Ou 10, ils sont pas. Ou 2.
Mais ça n'a pas d'importance. Mais l'important, c'est le fait, tu comprends. Enfin, tu es bien tranquille dans la campagne, sur ton cheval, en uniforme. Un civil te tire dessus, double grime.
Jacques Audiberti. Le théâtre. Ah, quelle est heureuse la personne qui s'octroie le luxe d'y aller pour y aller, n'apportant avec elle que l'espoir d'un plaisir.
Avec Graham Greene, c'est une autre musique, bien entendu. Sa pièce, Living Room, est une succession de conflits extraordinaires d'intensité. Ce fut un grand succès, grâce aussi à Jean Mercure, Nelly Borgeau et Yves Vincent. La première représentation eut lieu au Théâtre Saint-Georges, le 8 octobre 1954.
Si je puis être utile en quoi que ce soit.
Je lui avais dit de ne pas m'obliger à réfléchir. Je l'avais prévenu. Si nous étions partis ce jour-là, nous aurions été heureux. Je ne pense vraiment que si l'on m'y force, je ne peux pas penser à des gens que je ne connais pas. Sa femme n'était rien pour moi, juste un nom. Et puis elle est venue ici, elle a frappé le sol de ses poings, elle a pleuré dans ce fauteuil. Je les ai vus ensemble. Ils sont mariés. Je ne le savais pas. Michel me l'avait bien dit, mais je ne les avais pas vus. C'était comme si je l'avais lu dans un livre. Mais maintenant, je les ai vus ensemble. Je les ai vus toucher son bras. Hein. Qu'est-ce que je dois faire, mon nom ?
Si je le savais.
Dites-moi ce que je dois faire, mon père.
Quand tu dis mon père, c'est comme si tu me fermais la bouche. Il n'y a que de dures paroles à attendre.
J'ai besoin seulement que l'on me dise, fais ceci, fais cela, va ici, va là-bas. Je ne veux plus penser à rien.
Et si je te dis, quitte-le.
J'en mourrai.
Alors mieux vaut partir avec lui si tu es aussi faible.
Oh, mais je ne supporterai pas non plus de la voir souffrir, elle.
Tu es une enfant, tu exiges trop de la vie. Dans un cas comme le tien, il faut toujours choisir entre sa propre souffrance et celle d'autrui. On n'évite pas la souffrance.
Pourtant, on en voit tous les jours des gens qui s'enfuient et qui sont heureux.
Des fous, peut-être. Ou des imbéciles. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Denis passe son temps à disséquer les mobiles humains. Il a conscience de son égoïsme comme tu as conscience de ta culpabilité. Un psychologue et une catholique, comment pourriez-vous vous abuser ?
On pourrait presque dire « Quoi de neuf, Tchekhov ?» Toutes ces pièces et ces nouvelles adaptées sont jouées et rejouées. À la fin de la saison 1955, André Barsac, décidément infatigable, présente en son théâtre de l'Atelier La Mouette, avec Catherine Sellers dans le rôle titre. En voici une scène qui se situe au deuxième acte, au moment où l'écrivain Trigorine demande à Arkadina de rester quelques jours. Paul Bernard et Valentine Tessier.
Restons. Encore un jour.
Mon chéri, je sais ce qui te retient ici. Mais ressaisis-toi, tu es grisé. Sois raisonnable.
Sois raisonnable, toi aussi. Sois juste. Réfléchis, je t'en supplie. Tâche de voir les choses en véritable ami. Tu es capable de faire des sacrifices. Sois mon ami. Rends-moi ma liberté.
Tu es épris à ce point.
Quelque chose m'attire vers elle. Peut-être est-ce justement ce dont j'ai besoin.
L'amour d'une petite provinciale. Ah, comme tu te connais mal.
Et quelquefois on dort en marchant. Eh bien... je parle avec toi et il me semble que je dors et je la vois en rêve. Des rêves doux, merveilleux se sont emparés de moi. Rends-moi ma liberté.
Non, non, non. Je ne suis qu'une femme comme toutes les autres. On ne peut pas me parler ainsi. Ne me torture pas, Boris. J'ai peur.
Si tu le veux, tu peux être au-dessus des autres. L'amour jeune, beau, poétique, qui vous emporte dans le monde des rêves. Cet amour seul peut donner le bonheur sur terre. Cet amour, je ne l'ai encore jamais connu. Dans ma jeunesse, je n'avais pas le temps. Je courais les rédactions, je luttais contre la misère. Cet amour est là, enfin. Il m'appelle... pourquoi le fuirais-je ?
Tu es fou !
Tant pis.
Vous avez tous décidé de me torturer aujourd'hui.
Elle ne comprend pas. Elle ne veut pas comprendre.
Suis-je donc déjà si vieille et si laide qu'on puisse sans se gêner parler devant moi d'autres femmes ?
La ville de Claudel a été créée le 20 juin 1955 par le TNP de Jean Villard. Mais pas à Paris, à Strasbourg. Voyez, déjà Jean Villard faisait de la décentralisation. Il a créé la ville avec sa troupe à laquelle s'était adjoint Alain Cuny. Encore un beau texte et un grand comédien.
L'ensemble de tous les hommes est comparable à un homme unique. Et comme le chrétien dédie à son créateur cette portion du monde dont il vit, c'est ainsi que l'univers tout entier fut remis entre les mains de l'homme pour qu'il en fît l'hommage. Car telle est la raison de sa nature. Et ce jeu de Dieu, après la négation des anges, que l'esprit épousa le néant et contraignit la matière à la confession. Et si tu demandes que je te peigne la forme de cette ville nouvelle sur la terre dans le soleil de Dieu, je te dirai simplement, aujourd'hui est semblable à hier, toutes choses sont au-devant de nous. Et nul dans ce temple qu'est le monde ne saurait échapper à la nécessité de l'ample cérémonie, qu'ils ouvrent simplement les yeux à ce qu'ils font et qu'ils acquiescent à ce mystère où ils participent.
Théâtre Antoine, l'événement de la saison. Le diable et le bon Dieu de Jean-Paul Sartre, mise en scène de Louis Jouvet. Plus de 40 comédiens. C'était rare au boulevard, et ça l'est devenu encore davantage de nos jours. Parmi ces 40 comédiens, Pierre Brasseur, Jean Villard, Maria Cazares, Michel Etcheverry, Gérard Darieux, etc. Le capitaine Goetz, Pierre Brasseur, prétend faire le mal à l'état pur, et n'accepte qu'un seul rival, Dieu. Puis il est fasciné par l'aventure de faire le bien. Mais faire le bien, ce n'est pas si simple. Jean-Paul Sartre résumait ainsi sa pièce. Au premier acte, Goetz cherche Dieu. Au deuxième, il cherche le diable. Au troisième, il cherche l'homme. Ce n'est pas une pièce athée. On pourra toujours dire aux chrétiens que s'ils n'ont pas trouvé Dieu, c'est qu'ils l'ont mal cherché.
Alors, toujours pas de miracle? Je commence à croire que Dieu me laisse carte blanche. Merci, mon Dieu, merci beaucoup. Merci pour les femmes violées, merci pour les enfants empalés. Merci pour les hommes décapités. Si je voulais parler, j'en sais long, va. Sale hypocrite. Tiens, Nasty, je vais te casser le morceau. Dieu se sert de moi. Tu as vu cette nuit? Eh bien, il m'a fait relancer par ses anges. Oui, ses anges, vous tous, Catherine et certainement un ange. Toi aussi, le banquier aussi, et cette clé. Est-ce que je la lui demandais, moi, cette clé? Je n'en soupçonnais même pas l'existence. Il a fallu qu'il charge un de ses curés de me la mettre dans la main. Tu sais ce qu'il veut, naturellement, que je lui sauve sa prêtraille et ses nonnes. Alors il me tente, en douce. Il fait naître des occasions, sans se compromettre. Si je suis pris, il aura le droit de me désavouer. Bah, après tout, je pouvais lancer la clé dans le ravin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je ne peux pas être un autre que moi. Allons, je vais prendre un bon petit bain de sang pour lui rendre service. Mais quand ça sera fini, il va encore se boucher le nez et crier qu'il n'avait pas voulu cela. Tu ne le veux pas, Seigneur? Vraiment? Alors, il est encore temps d'empêcher? Je ne réclame pas que le ciel me tombe sur la tête, un crachat suffira. Je glisse dessus, je me romps la cuisse, fini pour aujourd'hui. Non? Non? Bon. Je n'insiste pas.
Dialogue entre Pierre Brasseur et Louis Jouvet.
Maintenant, je vais jouer avec mes tripes.
Les tripes, je ne suis pas contre. Encore faut-il savoir comment elles sont accommodées.
La décentralisation. Ça a été la grande affaire des années qui ont suivi. Nous avons déjà souligné l'importance du travail de Jacques Copeau, et de ces copiaux, comme les appelaient les paysans de Bourgogne. Ceux du début furent Léon Chancerel, Jean d'Asté, puis les comédiens routiers, bien avant 1945. Et au Vieux Colombier, Jouvet, Dulin, Hubert Gignoux, Jean-Pierre Grenier, Olivier Isnault, Maurice Jacquemont, d'autres. C'est sans nul doute ces pères fondateurs qui inspirèrent les nouveaux pionniers de la décentralisation, qui, à la suite de Jean d'Asté, justement, furent André Clavé, Michel Saint-Denis, Hubert Gignoux, déjà nommé, Roger Planchon, Georges Goubert, Guy Parigot, Maurice Sarrazin, Jo Tréhard. Tous ces animateurs ont commencé sans argent, parfois sans théâtre. Comme le note Pascal Horry, le premier âge de la décentralisation, grâce aux défricheurs cités plus haut, se situe de la Libération au début de la Ve République. Mais la date de 1958 est à considérer comme un renouveau, puisque l'apparition pour la première fois d'un ministère autonome chargé des affaires culturelles va donner, avec les centres dramatiques nationaux et les maisons de la culture une toute autre dimension à la décentralisation. Mais, encore une fois, comme le souligne aussi Robert Abirached, la genèse de la décentralisation n'est pas advenue telle une heureuse surprise en 1946-1947. Il n'empêche, et tout le monde est d'accord là-dessus, que ce grand virage, ce nouvel âge, est grandement dû à Jeanne Laurent, que son ministère autorisa à prendre des initiatives déterminantes, avec l'appui bien précieux de deux anciens du cartel, Charles Dullin et Louis Jouvet. Écoutons Jeanne Laurent, c'est une déclaration qu'elle fit au début justement de la nouvelle décentralisation.
La décentralisation correspond à une proposition qui avait été faite en 1937 par Dullin. Je savais que ce qu'il préconisait, c'est-à-dire détourner à partir de Paris, ne donnait pas le résultat escompté, c'est-à-dire celui de créer un public nouveau et de permettre une vie pour laquelle il envisageait au deuxième stade ce qu'il appelait des préfectorats artistiques. C'était une personne qui animait plusieurs troupes. Or, si une seule personne anime plusieurs troupes, ça veut dire qu'on a une esthétique pour plusieurs troupes. Or, dans le domaine de la création, il faut la possibilité d'avoir autant d'esthétiques qu'il y a d'instruments de création. Or, oui. Au théâtre, l'instrument de création, c'est la troupe de comédiens. Le besoin était de faire renaître des foyers de création dans la province et peu à peu d'irriguer tout le corps français de façon à être, pour ce qui est de la province, au même niveau que Paris et éventuellement d'avoir même des centres que Paris pourrait envier. Nous sommes allés de difficulté, en avançant toujours d'ailleurs. Eh bien, quand a-t-on eu l'impression que c'était gagné? Je pourrais vous dire qu'en 1951, Louis Jouvet disait à qui voulait l'entendre « Les centres dramatiques sont l'avenir de notre théâtre ». Et un peu auparavant, au mois de février, au moment de partir pour une tournée aux États-Unis, il m'a fait téléphoner par son administrateur et ami Carcinti pour me proposer que son théâtre soit à la disposition des centres dramatiques. Et comme cela me gênait que pour les centres dramatiques, un des plus beaux théâtres de Paris soit ainsi enlevé à des Parisiens qui pourraient le désirer, et comme j'ai hésité à répondre en disant mes scrupules, j'ai eu cette fois-ci Jouvet au téléphone qui m'a dit « si vous n'acceptez pas, je ferme le théâtre ».
Précisément, nous avons un document qui montre avec quelle ferveur Louis Jouvet soutint une des jeunes compagnies de la décentralisation, le Grenier de Toulouse.
Et ils ont obtenu le premier prix de comédie au premier concours des jeunes compagnies. Moi, ce que je voudrais dire de Sarrazin et de ses camarades, c'est que c'est un théâtre qui est une troupe véritable. Notre théâtre est riche en vocation d'acteurs et d'amateurs, mais il est bien pauvre en troupe véritable. Et il connaît bien rarement de nos jours l'esprit de compagnie. Selon le troupe, vous le savez, on le donne à quelques acteurs rassemblés à la hâte pour une tentative dont la durée est souvent bien incertaine et dont l'esprit de communauté ne subsiste pas au-delà de cette réunion provisoire. Eh bien, le Grenier de Toulouse est une véritable troupe. C'est un groupe chaleureux, fidèle, qui s'est montré capable de survivre au pacte provisoire d'une pièce, aux frénésies individuelles et égoïstes des acteurs, aux débâcles épisodiques que provoque parfois une entreprise de théâtre. D'ailleurs, la foi, cette foi commune qu'on trouve dans ce groupe, on peut la mesurer aux réalisations qu'a fait Sarrazin et ses camarades. Ils n'ont pas connu que des succès, ils ont connu des moments difficiles, comme tout le monde. Et 3 ans après leur fondation, en 48, ils sont en Suisse, à Genève, la caisse est vide. Et Sarrazin songe mélancoliquement à la faillite, comme on songe de temps en temps à la faillite quand on est directeur de théâtre, mais il songe à arrêter son effort. Et alors, il y a Dullin qui est à Genève, ce cher Charles Dullin. Il va voir leur spectacle, il apprend, il flaire leurs difficultés, il parle avec Sarrazin, et alors il écrit à Mademoiselle Laurent pour lui recommander ses jeunes camarades qui font du si bon travail. Et c'est ainsi que le Grenier de Toulouse est devenu officiellement le centre dramatique du Sud-Ouest.
C'était sans doute la dernière fois qu'on entendait la voix de Louis Jouvet. Le 16 août 1951, il cessait de vivre. Dans son théâtre de l'Athénée, entouré de sa troupe, il répétait une pièce qui lui tenait à cœur, « La puissance et la gloire » de Graham Greene, mais qui lui posait de grands problèmes. Il était inquiet, nerveux d'après ses compagnons. Soudain, il est devenu très pâle, s'est regardé dans un miroir, puis de lui-même, il s'est allongé à terre. Ensuite, on l'a transporté dans son bureau. Il avait perdu connaissance. Malgré les soins nombreux et intensifs, il ne se réveilla point. Il ne se réveillerait plus. La consternation régnait dans la petite cour qui jouxte l'entrée des artistes du théâtre de l'Athénée où s'étaient rendues de nombreuses comédiennes et comédiens en pleurs. Ses obsèques à Saint-Sulpice furent grandioses. Jean-Louis Barrault prononça l'oraison funèbre, secoué par les sanglots. La place Saint-Sulpice, sous le soleil du mois d'août, était noire de monde. Parmi ses plus proches compagnons et amis, Pierre Renoir, qui raconta dans quelles circonstances il apprit la mort de Louis Jouvet. Un coup de téléphone lui annonça la terrible nouvelle, et juste après, il recevait la dernière lettre de son ami.
Quelques minutes après, le facteur est venu. Et il m'a apporté une lettre de Louis, la dernière qu'il m'avait écrite. C'est à propos de la pièce qu'il mettait en scène, la pièce « La puissance et la gloire ». Lundi 13, mon Pierre. Je suis bien content de ton impression de lecture de celle conjointe de ta femme. Je te fais envoyer le 5 et le 6e tableau. J'ai commencé à mettre en scène le 1, sans pouvoir encore répéter moi-même. Car, comme tu l'as senti, c'est un rôle difficile. Et je ne sais pas par quel côté il faut le prendre. Ce n'est pas du tout du théâtre habituel. À part quelques passages, le dialogue a un pathétique froid. Presque impossible à ressentir en soi-même en le jouant sans boursoufler. Je pense à Mérimée. Je pense à un théâtre objectif, descriptif, un mélodrame dont l'exécution serait démonstrative, sans participation, je veux dire la participation habituelle du comédien qui cherche à incarner le personnage. Il me semble que le secret ici est plus que jamais de témoigner sans prendre à son compte, de décrire pour le spectateur. Il y a dans ces dialogues un peu d'un art en partie double, comme on dit en comptabilité, qui est commun avec le cinéma, mais ce n'est pas du cinéma. C'est un théâtre froid et démonstratif, épique, en ce sens qu'il raconte plus qu'il n'essaie de faire communier dans un même sentiment l'acteur et le spectateur. Je t'ai dit tout cela pour t'expliquer comme je travaille et que tu puisses juger ce que nous aurons fait quand tu arriveras. Autrement dit, le comédien doit faire et dire, mais sans chercher une incarnation, un état d'âme total. Excuse-moi de te dire tout cela, mais je tâche de voir clair. Le point délicat est de savoir si le spectateur suivra. Jusqu'ici, le texte est d'un intérêt réel et sans un mot de trop. Enfin, je suis bien impatient et angoissé. Au revoir, je t'embrasse bien, avec ta femme, ton Louis.
Au premier concours des jeunes compagnies institué par Jeanne Laurent, c'est le Grenier de Toulouse qui emporta la palme. C'était au théâtre Charles de Rochefort, le 19 juin 1946. Dans la salle se trouvait Annette Badel, qui dirigeait le théâtre du Vieux Colombier et qui les engagea sur le champ pour y jouer le Carthaginois. Une adaptation de Plaute par Henri Clouard qui fit leur succès. Dès le 2 juillet 1946, les Joyeux Tolosates, avec à leur tête Daniel Sorano, enchantèrent critique et public.
Je supplie les dieux et les déesses qui habitent cette ville de faire que mon voyage ici soit un voyage heureux. Accordez-moi, dieux immortels, je vous en conjure la grâce de retrouver mes filles qui m'ont été ravies et mon neveu en même temps qu'elle. J'avais autrefois dans cette ville un hôte appelé Antidamas. On dit, qu'il a satisfait à la loi de nature. Mais on m'assure que son fils, Agorastoclès, est ici. Bon, J'apporte avec moi le dieu, et le gage d'hospitalité. On m'a indiqué la demeure d'Agorastoclès dans les environs. Tiens, je vais m'en informer auprès de ces gens qui sortent de la maison.
Vraiment, méfiance à ces astuces, t'as dit qu'elles étaient toutes deux libres de naissance, victimes d'un rat et carthaginoises.
Oui, et si tu es un brave homme, tu formeras pour elles sans délai une demande en revendication de liberté. Ce serait une honte pour moi de voir dans l'esclavage, sous tes yeux, deux de tes compatriotes qui furent libres dans leur pays natal.
Oh, dieux immortels, j'implore votre bonté. C'est un bonheur que la conversation de ces hommes. Mes oreilles s'en repaissent avec délice, comme elles effacent mes noires inquiétudes.
Ah, si j'avais des témoins, comme cela, je suivrais tes conseils.
Il s'agit bien de témoins. Tu n'as besoin que de résolution, de fermeté. Il viendra bien quelque bonne fortune à notre secours.
Il est plus facile d'entreprendre que de réussir.
Mais quel est cet oiseau qui nous arrive en longue tunique flottante? Je vais lui parler en carthaginois. S'il me répond, je continuerai en carthaginois. Sinon, je conformerai mon langage à son caractère. Tu dis,
y a-t-il?
S'il vous plaît.
Te plaît-il que je lui parle en carthaginois?
Tu le sais donc?
Oh, il n'y a pas de carthaginois plus consommé que moi en carthaginoiserie.
Ça. Demande-lui le but, le motif de son voyage, qui il est, de quel pays, de quelle ville, enfin, n'épargne pas les questions.
À vous.
À vous, hein? De quel pays êtes-vous, de quelle ville?
Que dit-il?
Il dit qu'il s'appelle Anno. Non.
Oui.
Non, Anno. Qu'il vient de Carthage, qu'il est carthaginois, je sais. Fils de Anno Mutumbal. Mutumbal.
Bravo.
Ah, il salue.
Donny.
Il veut te donner. Ah, te donner quelque chose. Oh. Je ne sais pas quoi, mais il te le promet, entendu?
Bah, prends-lui son salut de ma part. En carthaginois.
À vous, Donny. C'est ce qu'il me charge de te dire de sa part.
Mais Barboca.
Oh, ça alors j'aime mieux que tu l'aies que moi.
Que dit-il?
Oh, il dit qu'il a la bouche malade.
Oh.
Il nous prend peut-être pour des médecins.
Alors s'il en est ainsi, dis-lui que nous ne le sommes point. Je ne veux pas inclure un étranger en erreur.
Écoute, va acheter du dentifrice.
C'est que je veux très positivement qu'on ne lui dise rien que la vérité. Alors, va, demande-lui s'il a besoin de quelque chose.
Toi qui n'as pas de ceinture. Dis-moi pourquoi vous êtes venu dans cette ville. Est-ce que vous cherchez?
Le fursa.
Que dit-il?
Mais le canard.
Mais pourquoi est-il venu?
Tu n'entends pas. Il annonce qu'il propose de donner aux édiles des rats africains pour paraître dans la pompe des jeux. Oh.
La aigle à cananime, les minicotes.
Que dit-il à présent?
Qu'il apporte des lampes, de la cannelle et des noix, il te prie de l'en procurer le début.
Il est marchand, ce qu'il paraît.
Il savent.
Oui, Arvina.
Allumer, Galecta.
Mission, que dit-il?
Qu'on l'a chargé de vendre de la paille et des fourches pour cultiver les jardins. Oh. Et pour faire la moisson, on te l'aura envoyé pour moissonner. Oh. À moins que tu ne veuilles autre chose.
Je n'ai que faire de lui.
Oui, mais il veut te faire savoir pour que tu ne crois pas qu'il ait l'intention de te déraper quelque chose.
Effroyable, c'est garanti.
Et surtout, garde-toi de faire ce qu'il demande.
Que dit-il? Que demande-t-il? Milfion, explique-le-moi.
Que tu l'étendes sous une clé, qu'on chargera ensuite de pierre pour le mettre à mort.
Une belle balsam, Nierassan. Miam, miam, miam.
Milfion, que dit-il? Sers-moi d'interprète.
Par Hercule, je n'y comprends plus rien.
Hé, pour que tu me comprennes, je vais m'expliquer en langage romain.
Oh, ah, mais
il faut par Hercule que tu sois un mauvais coquin d'esclave pour me moquer ainsi d'un étranger, d'un voyageur.
Et toi, ils vont bien ruser pour venir nous attraper ici. Métis-t-il bien double langue, race de serpent.
Supprime tes injures, contiens ta langue, je te le conseille. Tu feras bien de lui épargner tes mauvais propos.
Oh, monsieur...
Je ne veux pas qu'on insulte un de mes compatriotes.
J'ai ici un autre. Là. C'est le fils d'Antidame, je le cherche. Indique-moi si tu le connais, cet Agorastoclès. Dis-moi, connais-tu un jeune homme de ce nom?
Si tu cherches le fils adoptif d'Antidame, tu l'as trouvé, c'est moi-même.
Ah, qu'entends-je?
À partir de ce moment, les jeunes compagnies commencèrent à recevoir quelques subventions. Maurice Sarrazin parle de miracle. Un miracle dont la fée... indubitablement, était Jeanne Laurent, qu'à l'époque, tout le monde appelait, avec tendresse, respect et simplicité, Mademoiselle Laurent.
Le miracle, c'est qu'il se soit trouvé des gens. Et c'est, la personne principale s'appelait Mademoiselle Jeanne Laurent, qui était sous-directrice à ce moment-là des théâtres au ministère de l'Éducation nationale, parce que c'était l'Éducation nationale qui régentait ça. Elle lance la décentralisation, c'est-à-dire le fait de dire il faut aller vers les gens, sortir de ce public un peu spécialisé comme ça, qui est les salles de théâtre où ça tourne en rond. Il faut aller vers le public tel qu'il est.
La question du répertoire était évidemment centrale. Quelles œuvres présenter à un nouveau public de province? Comment lui faire admettre que le théâtre n'est pas un lieu réservé aux intellos, un lieu où l'on s'ennuie? Comment le fidéliser, comme on dit aujourd'hui? La plupart des animateurs choisirent des pièces belles et fortes, mais immédiatement compréhensibles à un large public. Bien sûr, dans un premier temps, ils puisèrent abondamment dans Molière plutôt que dans Claudel, dans Labiche ou Feydeau plutôt que dans Pichette, dans Beaumarchais plutôt que dans Sophocle. Mais dans un second temps, ils démontrèrent que bon nombre d'auteurs réputés difficiles pouvaient aussi toucher des spectateurs peu préparés à les recevoir. Ils démontrèrent qu'on n'obtenait que des victoires provisoires à sous-estimer les facultés de compréhension et de plaisir d'un public non averti, et que c'était un nivellement par le haut qui était la bonne voie. À condition d'opérer progressivement, de ne pas effrayer, de continuer toujours de pratiquer un certain panachage, on gagnait la partie. Les salles étaient pleines et durablement. C'est cela que nous devons à la décentralisation. Cependant, il ne faudrait pas croire que cela fût exempt d'errements, d'erreurs. Il ne faudrait pas croire non plus qu'ici ou là, les programmations furent toujours cohérentes. Il ne faudrait pas croire non plus que les compagnies pionnières ne se heurtèrent pas à des difficultés financières très importantes. Nombre d'entre elles ne parvinrent que très lentement, par exemple, à baisser le prix des places, car les premières et maigres subventions couvraient à peine les frais de fonctionnement. Il a fallu du temps avant que d'abord les municipalités apportent une aide aux jeunes compagnies, ne serait-ce qu'en leur proposant un lieu, théâtre ou cinéma ou autre, gratuitement. Mais l'opiniâtreté, j'allais dire la foi, et bien sûr la qualité et l'esprit des spectacles présentés, ont suscité un intérêt grandissant, y compris auprès des édiles. Qu'il y eut des aléas, voire des reculs, c'est indéniable. Qu'aujourd'hui encore on trouve des incohérences, c'est indéniable. Mais un profond sillon a été tracé, et on le doit à ces fous de théâtre, pour qui n'auront pas été inutiles les voies ouvertes par Gémier, Copeau, Chancerel. Brièvement, donnons la parole à quelques artisans de la décentralisation. D'abord le point de vue de Dominique Kéek, directeur de la Maison de la Culture d'Amiens, puis ensuite de Rennes.
L'État en France, en tout cas depuis l'après-guerre 39-45, est un État plutôt libéral. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'est intéressé toujours de la même manière et aussi fortement à la culture. Le pouvoir local en France est beaucoup plus tatillon et beaucoup plus interventionniste. Il pratique beaucoup plus facilement l'ingérence. Pourquoi ? Parce qu'il est soumis beaucoup plus directement à la pression d'une population, donc d'un électorat, et qu'il a tendance à être finalement beaucoup plus opportuniste, démagogique parfois.
Directeur du Centre dramatique national des Alpes, puis de la Maison de la Culture de Grenoble, Georges Lavaudan.
Les centres dramatiques sont subventionnés par l'État. C'est donc plus avec l'État qu'on a des rapports qu'avec la ville. Pratiquement 80 à 90% des subventions viennent de l'État et 10 ou 20% de la ville et des collectivités locales. Et suivant les saisons, ça dépend des spectacles, la manière dont on les tourne, j'allais dire les recettes propres peuvent évaluer entre 15 et 30%, ce qui est faible, mais les spectacles, je veux dire, s'autofinancent de moins en moins. Et si on veut continuer de faire des spectacles avec des plateaux importants, on perd, plus on joue, plus on perd d'argent.
Jean-Pierre Miquel, à l'époque directeur du Centre dramatique national de Reims, nous donne des précisions sur l'importance de l'organisation financière à l'échelle locale.
À Reims, nous avons deux tutelles financières. Nous avons le ministère de la Culture, qui est le principal financier, et la ville de Reims, qui vient très très proche, enfin, au point de vue du financement. Donc j'ai un dialogue avec deux tutelles. Jusqu'ici, la municipalité de Reims étant de gauche, jusqu'ici on avait un peu tendance entre les deux tutelles à se renvoyer la balle indéfiniment. Je crois qu'après la guerre, quand la décentralisation théâtrale a été mise en place progressivement, elle était fondée sur une idée finalement issue du Front populaire, une idée que l'art était un grand œcuménisme et que c'était à travers les regroupements autour de l'œuvre d'art, et notamment dans la manifestation théâtrale, qui est une manifestation de la conscience collective par excellence, on allait abolir un certain nombre de divisions, de distinctions entre les différents individus composant le groupe. Et d'autre part, il y avait une espèce de caractère missionnaire donné à cette décentralisation qui allait apporter la création artistique là où elle n'existait pas, là où il n'y avait vraiment rien.
Sur la notion de théâtre populaire, et par conséquent sur la recherche d'un autre public, Robert Abirached rappelle opportunément les propos de Villard, qui se proposait, je cite, « de réunir le boutiquier de Suresnes, le haut magistrat, l'ouvrier de Puteaux et l'agent de change, le facteur des pauvres et le professeur agrégé. » Et si on remonte plus loin, Maurice Potcher, parlant lui de réunir sur les bancs du théâtre le premier des philosophes et le dernier des portefeuilles de la halle, le financier le plus opulent et le plus dénué des traits de misère. Nous ne sommes donc pas à la notion de théâtre qui divise, un théâtre de combat, comme le voudront plus tard Piscator ou Brecht. Non, comme le constate encore Robert Abirached, ce n'est pas ce qui prédomine dans les courants fondateurs de la décentralisation en France. Alors pour terminer ce survol, écoutons André Malraux, alors ministre de la Culture, inaugurer la Maison de la Culture de Bourges.
Il faut que vous compreniez bien que ce qui se passe ici est une certaine aventure, probablement dans le monde entier. Je dis que c'est une aventure dans le domaine de l'esprit, parce qu'il faut que l'on comprenne bien que le mot « loisir » devrait disparaître de notre vocabulaire commun. Oui, il faut que les gens aient des loisirs. Oui, il faut les aider à avoir les meilleurs loisirs du monde. Mais si la culture existe, ce n'est pas du tout pour que les gens s'amusent, parce qu'ils peuvent aussi s'amuser peut-être bien davantage avec toute autre chose et même avec le pire. Et ce qu'on appelle la culture, c'est l'ensemble des réponses mystérieuses que peut se faire un homme lorsqu'il regarde dans une glace ce qui sera son visage de mort.
Notre prochaine et provisoirement dernière émission sera essentiellement consacrée à Jean Villard, le Festival d'Avignon et le Théâtre National Populaire.
C'était « D'un théâtre l'autre », une rétrospective théâtrale de Jacques Charby. Collaboration artistique Sonia de Beauvais. Texte lu par Jean-Pierre Darras. Archive de la documentation sonore de Radio France et de l'INA. Documentaliste Rosanne Lelièvre et Pascal Toublant. Prise de son et mixage Philippe Destrebecq et François Rivalan. Réalisation Claude Chebel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 août 1995. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, cinquième et dernier volet de la série.